VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Arabie Saoudite, le roi Salman et de nombreux chefs d'État étrangers, notamment d'Afrique, ont assisté aujourd'hui à la fin des manœuvres militaires Tonnerre du Nord, les plus importantes jamais organisées dans le royaume wahhabite. Des unités de 20 pays arabes et musulmans y ont participé près de la garnison du Havre al-Batin dans le nord-ouest saoudien, non loin des frontières de l'Irak et du Koweït. Objectif de l'exercice qui a duré 12 jours, coordonner les efforts des participants à la lutte contre le terrorisme. Parmi les leaders africains présents, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Soudanais Omar al-Bashir, le Sénégalais Macky Sall, le Mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz, le Tchadien Idriss Déby Itno et le Djiboutien Omar Guelleh. Conflit en Irak, des centaines d'habitants de la localité de Taza, dans le nord du pays, ont bloqué aujourd'hui une autoroute pour demander au gouvernement de bombarder Daesh, le groupe État islamique. Les manifestants accusent le groupe djihadiste d'utiliser des armes chimiques. Idriss Fall.
L'autoroute entre Kirkuk et Bagdad a été bloquée par ces manifestants. Sur une de leurs banderoles, on pouvait lire, et je cite, « 30 000 personnes à Taza sont quotidiennement bombardées et le gouvernement reste silencieux ». Taza se trouve dans une zone où sont déployées des forces kurdes et des milices chiites. La cité se trouve près de Bashir, une localité contrôlée par le groupe État islamique qui tire ses projectiles. Selon le maire Hussein Abbas, hier, sa ville a été ciblée pendant 3 heures par environ 45 roquettes. D'après Burhan Abdallah, un responsable de santé, près de 200 personnes ont été prises en charge médicalement. Des responsables locaux ont même indiqué que du chlore a été utilisé, mais cette information n'a pas été confirmée par une source indépendante. En février, John Brennan, directeur de la CIA, avait affirmé que Daesh a déjà utilisé des armes chimiques et pouvait fabriquer de petites quantités de gaz moutarde.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, fin de la grève dans le secteur pétrolier. Les syndicats de la compagnie pétrolière nationale ont annoncé aujourd'hui que les grévistes avaient repris le travail interrompu depuis hier. Ces syndicats disent avoir reçu des autorités nigérianes l'assurance que le plan de restructuration du secteur pétrolier ne serait pas assorti de licenciement de personnel. On reste en Afrique de l'Ouest alors que la crise migratoire perdure en Europe. Les Africains sont toujours aussi nombreux à tenter de rejoindre le vieux continent. Beaucoup d'entre eux passent par la Libye et le Niger est souvent la dernière étape avec Agadez avant de passer la frontière libyenne. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pineau, a rencontré à Niamey ceux qui ont renoncé à l'Europe et qui tentent de rentrer chez eux. Son reportage.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado, à Niamey, ils sont une dizaine à être venus recevoir de l'aide de la part de la mission catholique. Tous ont tenté le rêve européen mais ont échoué en Libye ou au Maroc. À court d'argent et plein de désillusions, ces Africains ont décidé de rebrousser chemin. Avec ses locks et son bandana sur la tête, Henri a quitté Yaoundé en 2014. 2 ans de galère, mais il affirme ne rien regretter.
Ouais, déjà, j'ai eu soif d'aventure, j'ai voulu découvrir de nouvelles terres et pourquoi pas, j'ai tenté aussi d'aller de l'autre côté de l'Europe, comme tout Africain qui en rêve. Pour étanger, j'ai perdu des sous que j'avais, j'avais plus rien et alors j'ai fait un retour en Algérie. En Algérie, j'ai séjourné un petit peu, quelques mois, et après je suis redescendu, une fois que j'ai compris la réalité.
Beaucoup ont dépensé des centaines d'euros pour tenter l'aventure. Stéphane a tout quitté à Douala, sa femme, sa fille et son petit commerce. Il garde un goût amer et les stigmates de son passage au Niger.
J'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout avec la police nigérienne, parce que là-bas, ils ne sont pas vraiment humains, quoi. C'était entre Maradi et Agadez. Ils m'ont dépouillé et puis ils m'ont abandonné dans le désert. J'ai parcouru à pied plus de 36 km avant de rejoindre la ville.
Tous décrivent cette même violence de la part des passeurs, des différentes polices et de tous ceux qui font de l'argent sur le dos des migrants. Il y a aussi les abus nombreux, notamment les viols que subissent les femmes. Rachel était coiffeuse à Douala. Elle reste traumatisée par son agression à Oran, en Algérie.
J'ai compris que ça arrive, dans tous les pays ça arrive. La violence peut sortir en pleine journée en rentrant et t'agresse. Le grave problème qui est là-bas, c'est que si un Algérien t'agresse même devant 100 Algériennes, personne n'y riposte. On lui laisse, il fait ce qu'il a fait et il part. Que toute femme qui veut prendre la route soit seulement courageuse et forte.
Ces tristes récits, Laurent Tindano en a vu des centaines. Il est volontaire pour aider ces migrants à rentrer chez eux, mais refuse de les aider s'ils s'entêtent à vouloir gagner l'Europe.
Ceux qui traversent ici et qui vont au désert, qui veulent aller en Libye et qui veulent, la finalité, c'est de traverser, aller en Italie. Nous ne pouvons pas les aider parce que s'il advenait que notre appui aide quelqu'un à aller au désert et meurt, l'Église aura envoyé les gens à la mort. Or, ce n'est pas sa vocation.
Avec son t-shirt jaune et ses yeux d'enfant, George espère rentrer vite au Libéria. Il a vendu il y a 6 mois sa moto pour partir, un choix qu'il regrette.
Vous savez, ceux qui sont déjà en Italie envoient des photos, nous disent que c'est beau là-bas, qu'il faut les rejoindre. C'est donc par pure pression que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour partir. En fait, cet argent, j'aurais dû mieux l'utiliser au Libéria. On est en Afrique, on a tout.
En 2015, 130 000 migrants ont réussi à gagner l'Italie en traversant la Méditerranée. Au moins 3 771 ont perdu la vie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, RDC. Le gouvernement congolais a exhorté aujourd'hui ses partenaires étrangers à faire preuve d'une coopération positive avec Kinshasa, 2 jours après que l'Union européenne s'est déclarée préoccupée par les harcèlements d'opposants dans le pays. Les précisions de John Lindon.
Depuis des mois, l'ONU dénonce ce qu'elle qualifie de vagues d'arrestations arbitraires d'opposants et autres militants de la société civile en République démocratique du Congo. L'Union européenne s'est dit préoccupée par les actes de harcèlement d'opposants de la société civile et des médias. Mardi, la délégation de l'Union européenne à Kinshasa a estimé que le respect des droits de l'homme et des libertés civiles était crucial afin de permettre des élections transparentes, apaisées et crédibles. Pour Lambert Mende, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, il n'est pas juste de croire ou faire croire que les autorités congolaises sont moins préoccupées par les droits fondamentaux de leurs compatriotes que leurs partenaires. Le climat politique reste très tendu en RDC. L'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de vouloir demeurer à la tête du pays au terme de son mandat en décembre 2016, alors que la Constitution lui interdit de se représenter.
Au Burundi voisin, le procureur de la République a présenté les principales conclusions de la commission d'enquête sur la mort de plus d'une centaine de personnes dans certains quartiers contestataires de l'agglomération de Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Le point avec notre correspondant dans la capitale burundaise, Christophe Nkurunziza.
Le 11 décembre 2015, Bujumbura dormit sous les coups d'armes automatiques et d'explosions de grenades après l'attaque de 4 camps militaires dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura Rural, selon un rapport que le procureur général de la République vient de rendre public ce jeudi. Ce dernier affirme que des combattants d'un groupe armé non encore identifié se sont alors rendus dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les forces de défense et de sécurité, en poursuivant ces combattants en tenue militaire et policière, ont tué 87 personnes, dont 4 militaires, 4 policiers et 79 combattants. Le procureur général de la République confirme que ceux qui n'ont pas été identifiés ont été enterrés dans les cimetières de Kanyosha et Mpanda pour des raisons de salubrité. Mais 87 autres assaillants sont aujourd'hui incarcérés dans la prison de Muramvya au centre du Burundi. Cependant, observe le procureur général de la République, 7 combattants ont été retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Un dossier répressif a déjà été ouvert. Toutes les allégations faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirme certaines ONG internationales, ne sont pas fondées, selon toujours le procureur général de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les nouvelles hors d'Afrique pour terminer. En Birmanie, l'ex-opposante birmane Aung San Suu Kyi ne sera pas présidente de son pays. Après des mois d'attente, elle a finalement révélé le nom de celui qu'elle souhaite voir accéder à la présidence, un poste qui lui est interdit par un article de la Constitution hérité de la junte. Il s'agit de Tin Kyo, un ami d'enfance et proche collaborateur âgé de 69 ans qui n'a jamais été élu à un poste politique. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.